problème de la santé. Merci tout le monde d'être là. J'ai demandé à mes amis Anne-Laure Simoneau, qui est psychiatre sur Paris, Nadine Prigent, qui est la confédérale des personnels de santé à la CGT, Patrice Muller, qui fait partie du syndicat des médecins généralistes, que des gens en fait dont vous n'entendez quasiment pas parler, de venir, non pas vous saouler, mais expliquer un petit peu ce que vous entendez un peu nulle part ici ce soir aux élites de Paris. Alors, c'est pas simple. Merci. C'est pas simple parce que il y a un moyen facile de ridiculiser ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. C'est à partir du moment où vous passez dans la lucarne et la télévision, qui dénature complètement ce que vous pouvez dire. À l'heure actuelle, les attaques sur le système de santé en France sont inégalées. C'est du jamais vu. La baisse des pouvoirs d'achat pour les personnels hospitaliers, que ce soit les infirmières, les médecins, pour les médecins entre 1974 et actuellement c'est 30%, ceci explique que beaucoup de médecins se tirent pour exercer dans le privé. Alors l'hôpital public. L'hôpital public, si vous regardez comment il évolue, c'est absolument passionnant parce que dans quel que soit l'endroit sur la planète, même si vous avez une guerre comme au Darfour, qui est l'une des guerres les plus anciennes et les plus horribles qui ait eu sur cette planète, ou sous les bombes américaines à Bagdad, vous avez toujours une structure qui reste en place, c'est l'hôpital public. Et ne leur en déplaise à notre bande de voyous rigolos du ministère de la Santé et du gouvernement à l'heure actuelle, c'est que juste après la Seconde Guerre mondiale, des accords avaient eu lieu pour créer justement un service public fort, et ça s'était fait avec le comité de la résistance, avec des gens de progrès comme Croizat, et donc sur un pays en ruine, où il n'y avait rien, on a réussi à bâtir un système qui a tenu la route pendant quand même 60 ans. Et à l'heure actuelle, alors que la France est très riche, eh bien, vous entendez sans arrêt parler que l'hôpital ne va pas bien, etc. En fait, c'est devenu une histoire d'argent et de gros sous. J'en veux pour preuve, donc il y a deux jours, maintenant ce sont des amis, les AGF, les Assurances Générales de France, donc je ne peux plus assurer ma moto, qui ont décidé de créer la carte de santé, d'excellence santé, qui est donc réservée aux personnes qui sont là ce soir, les gens qui pourront payer 12 000 euros par an, plus 4 000 pour votre conjoint, plus 2 000 par enfant. Et là, et c'est extraordinaire, parce que dans un grand silence national, eh bien, on vous a expliqué que ce sont des professeurs universitaires qui géreront votre dossier. Ça s'appelle le coaching, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de mot en français pour expliquer la bêtise américaine. Ça s'appelle le coaching. Et d'un coup, voilà, c'est merveilleux. Alors, c'est épouvantable. Je travaille donc, comme vous le savez sans doute, dans un service d'urgence, et on est en fait, il n'y a pas de honte à dire qu'en fait on est une sorte de thermomètre du système de santé, et qui a une lente décrépitude. C'est-à-dire qu'en fait, avant ça touchait les plus pauvres, donc ceux dont Bernadette Chirac aime bien vanter les mérites au moment de la vente de ses pièces jaunes, ou lors d'émissions de télé où on va vous obliger à pleurer un petit coup, puis après, on oublie. Maintenant, ça touche la classe moyenne. Donc ça, c'est important. La réforme de l'assurance maladie a été faite, on commence à en avoir des preuves, puisqu'il y a une tare française qui consiste à avoir une amnésie. Il faut absolument se rappeler de ce qui a été dit. Quand Philippe Douste-Blazy a créé le cadre de l'assurance maladie, il avait dit « tout ira mieux ». Et en fait, c'est de pire en pire. Parce qu'en fait, tout est en train de basculer dans le secteur privé, où si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une mutuelle qui bien souvent commence maintenant à sélectionner ses malades, par exemple, s'il ne fait pas bon avoir une maladie chronique, un cancer, le sida, ces pathologies-là, parce que d'un coup, on commence à sélectionner et à dire, oh, ben non, on ne va pas prendre, etc. Donc on est coincé entre tout ça et... Au niveau des services d'urgence, on a vu comme ça arriver progressivement ces difficultés pour se soigner de plus en plus. Avec Patrice Muller, il reviendra, un parcours de soins qui est complètement délirant qui oblige les gens à avoir un médecin traitant, bon ou mauvais, c'est pas grave, il faut un médecin traitant. Et puis, il y a les confrontations par rapport aux gestions de grands systèmes. Là, dans un grand silence national, vous avez quand même à peu près 50% de la population d'un département français qui s'appelle La Réunion, qui s'est retrouvée avec une maladie qu'on avait oubliée, puisqu'il y a un lien entre tout ça. J'aurais pu, si j'avais été un peu plus studieux pour ce soir, demander à Trautmann de venir vous parler du comité Sauvons la Recherche. La recherche se casse la figure. Il faut savoir que la France, il y a quelques années, était quand même leader sur un certain nombre de systèmes de recherche, notamment les insectes. Et que maintenant, quand un jeune veut faire de la biologie sur les insectes, il ne peut pas. Donc du coup, ça développe, il y a un lien, on a développé, il y a eu le développement de cette maladie, le chikungunya. Le chikungunya qui n'est pas une nouveauté, hein, il existe depuis la nuit des temps, le moustique qui porte existe depuis la nuit des temps, et je me suis fait engueuler récemment par le ministre parce qu'il a trouvé que je faisais du misérabilisme, parce que j'ai osé poser la question de savoir si c'était pas dû au réchauffement de la planète que le moustique redescende un peu vers le sud. Et quand je lui ai dit, mais s'il descend vers le sud, il va remonter vers le nord, quel nord? Et voilà, et donc du coup, il y a des chances que dans les années qui viennent, il y a des développements de parasites en France, en Espagne, en France, avec le réchauffement climatique. Et là, évidemment, vous ferez grâce de ne pas vous parler de la canicule, parce que voilà, j'y ai droit. Mais ça reste l'un des problèmes de santé publique majeurs. Parce que, et là, au niveau des services des urgences, on le voit régulièrement. Et alors, je vous assure que, je vous remercie. Prêtez attention ce soir, nous allons tous vieillir, sauf quelques-uns, mais on n'a pas les noms. Mais sinon, on va tous vieillir, on va vieillir très longtemps. Et tout le monde s'en fout, sauf Bernadette Chirac pour 2-3 émissions avec Michel Drucker. Et sinon, tout le monde s'en fout. Et c'est un problème de civilisation monstrueux. Parce que les vieux, à l'heure actuelle, ils vivent pas si mal que ça. Parce qu'ils ont eu pratiquement le plein emploi, ils ont pu cotiser, ils ont pu bénéficier encore de systèmes de solidarité qui ont quand même été très importants pour le développement de notre pays, leur solidarité. Et puis, ils ont encore un peu leur famille, et puis surtout, ils sont propriétaires de leur logement. Or, à l'heure actuelle, c'est devenu très difficile d'avoir son logement. Le plein emploi, grâce aux grandes idées du gouvernement de Chirac, puis bientôt Nicolas Sarkozy, allez voter, il est évident que ça risque de se développer de plus en plus vers une pauvreté parmi les personnes âgées. Et nous avons vu cette année surgir parmi les clochards, j'aime pas le mot SDF, puisque le mot sans domicile fixe avait été inventé par la police de Vichy, pour dénommer les gens qui erraient lors des grandes migrations à cause de la guerre, donc eh bien, d'une population âgée qui se clochardise, comme des populations, et maintenant le SAMU social de Paris, qui en fait ne sert qu'à éviter qu'on voit trop la pauvreté sur les trottoirs des villes, ils le savent eux-mêmes, hein, c'est comme ça qu'ils voient leur mission, mais bon, ils sont utiles, ils découvrent de plus en plus de personnes handicapées, notamment en fauteuil roulant, qui ne savent plus où aller. Parce que ça, c'est un élément important. C'est la prise en charge des handicaps dans notre société. Ça a toujours été quelque chose de très tabou, avec une volonté des gouvernants de dire « bon, on fait beaucoup parce que le petit enfant en chaise roulante, bon, ça fait pleurer, donc on fait beaucoup pour eux ». Mais alors, ils sont encore enfants, donc ils fêtent leur anniversaire de 18 ans, le gâteau arrive sur la table, et là, c'est la catastrophe. Les structures pour les jeunes adultes ou adultes handicapés n'ont pas assez de moyens pour travailler, sont dans des états extrêmement difficiles. Les lois qui ont été passées pour essayer d'insérer les personnes handicapées dans le monde du travail sont appliquées ou pas appliquées. On va dire qu'à peu près tout le monde s'en fout, sauf une fois par an lors de la journée des handicapés. Et ça pose des problèmes majeurs. Majeurs parce que ces personnes, nous les retrouvons au niveau des services des urgences, et nous, je vais vous raconter des tas d'histoires là-dessus, des histoires réelles, et bien on est complètement diminué. Parce que l'hôpital public, il y a un chiffre à retenir au cours des 15 dernières années, 100 000 lits d'hospitalisation étaient fermés. Et là, aujourd'hui, le ministre explique qu'il va falloir fermer 113 blocs opératoires. Alors, c'est pas cette annonce qui est intéressante, en fait, à comprendre, c'est la stratégie qu'il y a derrière. C'est un gouvernement qui utilise beaucoup la stratégie de la balle et du prisonnier. C'est-à-dire, en fait, vous envoyez une balle, puis vous voyez si elle revient. Bon, si elle revient vite, c'est pas le moment. Si elle revient pas, vous pouvez foncer. Et là, aujourd'hui, ils ont fait une magnifique campagne d'informations en leur faveur. Et ils ont envoyé... Tout à l'heure, j'étais à un débat où on m'a mis, évidemment, mon ami député UMP, Bernard Debré, qui prône la fermeture de tous les établissements publics. Hein, tout ça. Et Jean de Kervas-Doué, qui est intéressant, parce que Jean de Kervas-Doué, n'est-ce pas, est un type qui était directeur des hôpitaux dans les débuts des années 80, et c'est lui qui avait dit que grâce à ces réformes, eh ben, dans les années 2000, tout irait mieux. C'est un succès majeur, mais cet homme sévit encore maintenant dans des boîtes de consulting où il explique ce qu'il faut faire dans 10 ans. Mais comme ça n'a pas marché il y a 20 ans, on peut avoir mieux. Un dernier mot avant de passer la parole à mes collègues. Je voudrais vous alerter sur une loi qui est passée un peu inaperçue et vous pouvez signer la pétition qu'on soutient sur le fait que Sarkozy et Clément, deux grands démocrates, ont décidé d'étendre les pouvoirs d'arrestation dans les hôpitaux, les salles d'attente, les blocs opératoires, pour n'importe quel motif. Alors, la pétition a circulé, circule encore, vous pouvez la signer sur mesdecinsdumonde.com, hein, en toutes lettres. Cette loi, vous pouvez penser, donc pareil, ils ont envoyé la balle, ils se sont aperçus que ça revenait un peu à l'Europe, ils ont fait monter au créneau des grands communicants pour expliquer qu'on avait mal lu la loi, que c'était pas ça, que bien sûr quelqu'un qui était opéré, on n'allait pas l'arrêter alors qu'on l'opérait, on la mettrait en sortant du bloc. Tout ça, ils ont expliqué ça. Bon. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que la semaine dernière, aux urgences du centre de psychiatrie, d'orientation et d'accueil de Sainte-Anne, eh bien, il y a un homme qui a été arrêté, qui venait consulter, et bon, on ne sait pas pourquoi, la police l'a suivi et l'a arrêté en salle d'attente. Et les soignants sont allés le voir en disant « vous n'avez pas le droit de l'arrêter et tout », et la réponse a été « nous avons le droit ». Enfin bon, voilà. Donc, c'est une autre époque. La lutte, elle est quotidienne. Là, les budgets des hôpitaux n'ont jamais été avec un déficit pareil, 1,5 milliard d'euros. Bon. Histoire d'être sûr de finir d'abattre les hôpitaux, ils ont décidé d'interdire le report de charges. Ce qui fait que, j'y suis pour rien s'il y a en plus la flambée du pétrole et qu'aujourd'hui ils annoncent une récession économique comme jamais on risque d'en avoir, mais... c'est la première fois dans l'histoire des hôpitaux que des directeurs expliquent qu'ils ne savent pas comment ils paieront les salaires au mois de novembre. Vous imaginez, par le fait qu'on ait saboté complètement la stratégie sur l'hôpital public, finalement des utopistes comme moi, on reste encore à l'hôpital public, mais des gens qui finalement se disent « ouais, je vais aller travailler en public », ils trouvent facilement à aller y travailler. Et ça, c'est absolument... très inquiétant parce que notamment sur des domaines comme la chirurgie, mais aussi la cancérologie, les plateaux techniques avec la radiologie, et c'est évident que vous avez une fâcheuse tendance à vous dire bah, on va aller en clinique. Et nous avons plein d'exemples sur des restructurations qui ont été en faveur. Et comme par hasard à chaque fois, vous avez la Générale Santé qui n'est pas très loin, qui dépend de la Générale des eaux, etc. Bon. Ça, c'est vraiment un pays qui semble de plus en plus livré aux copains. Juste en conclusion de cette énorme et trop longue introduction, je voudrais vous parler des médecins à diplôme étranger. Voilà. Il y a donc eu les premières émeutes au mois de novembre, les deuxièmes récemment, les troisièmes vont arriver, car jamais 203. Alors, c'est assez intéressant de voir les médecins du tour étranger. Parce que vous avez des générations de première, deuxième, troisième, quatrième génération dues à l'immigration en France, bon, et on leur dit qu'ils ne savent pas s'intégrer. Bon. Et là, nous avons une population de médecins à diplôme étranger qui ont fait l'effort de passer les diplômes, souvent les mêmes que moi, qui travaillent dans l'hôpital, comme moi, mais ils n'ont pas le même salaire. C'est-à-dire qu'on les paye 25% en moins. Donc ça, si ça ne s'appelle pas un délit de sale gueule, je ne vois pas. Mais surtout quand ils commencent à dire, bah oui, mais monsieur, ça serait bien quand même, j'ai des enfants à l'école, voilà, vous n'êtes jamais à l'hôpital, vous me faites faire toutes les gardes, y compris celles des week-ends, des dimanches, donc ça serait bien quand même que tu puisses, machin, ta gueule, ou tu vis. Voilà. Donc c'est pas comme ça qu'on peut, parce que finalement, si dans un domaine ou dans une société, les professions sont, je ne crois pas trop à la hiérarchie des professions, hein, mais. Le symbole du médecin dans une civilisation, dans un métier, dans une société, c'est quelque chose d'important. Donc si eux, alors qu'ils ont fait l'effort de s'intégrer dans un métier difficile, dans un métier où ils rendent service à la nation, et ben, on ne leur montre pas qu'on les intègre complètement, comment voulez-vous qu'après celui qui a vu son père se faire exploiter étant maçon, il ait envie de se faire exploiter quand il voit qu'on exploite le médecin dit à diplôme étranger. Et entre parenthèses, ce diplôme a été... dérange quand ils veulent prétendre à des postes dans les hôpitaux, mais ça arrange le système parce que ce diplôme permet de sous-payer des gens de qualité. Ou alors ça voudrait dire que ces gens qui sont d'origine étrangère sont de mauvaise qualité, mais parce que je suis d'origine française, je suis quelqu'un de valable. Or c'est faux, puisque notamment la formation médicale continue, qui est un grand serpent de mer, devrait permettre une indépendance par rapport au laboratoire scientifique, eh bien, elle n'est absolument pas construite. Ce qui fait que vous avez beaucoup de médecins qui sont pieds et poings liés avec l'industrie pharmaceutique. Et je voudrais juste vous donner cet élément de réflexion. C'est que la deuxième plus grosse entreprise cotée au CAC 40 avec les plus gros bénéfices cette année, c'était Sanofi Synthélabo, une grosse boîte de laboratoires pharmaceutiques. Et cette boîte, bien entendu, ses profits, elle les fait sur d'autres assurances maladie, mais elle ne redonne pas au système collectif ce qu'elle a drainé en bourse, ce qui fait que le truc est complètement pivoté. Voilà ce que je vais vous dire. Je vais passer la parole à Nadine Prigent. Voilà. Non, je
Oui, tout à une explication. Alors, moi, je suis secrétaire de la Fédération CGT de la Santé, de l'action sociale. Tout à une explication, je vais le dire un mot aussi sur Chicoumou à la Réunion, parce qu'au-delà de ce que dit Patrick, on a aussi nous fait le constat avec les représentants CGT sur place que les équipes de prévention animées par les DAS, les équipes de prévention qui s'occupent des luttes antivectorielles sur l'île, ont été divisé par 3, 4, 5 en quelques années. Donc ça aussi, c'est une explication du pourquoi la flambée de ce virus sur les... Tout a une explication, ça passe par les emplois et les qualifications. Pour ce qui est de l'hôpital, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pratiquement 1 million d'emplois, c'est la moitié du budget de l'assurance maladie, de l'hôpital public. Donc pour vous dire que le cœur du sujet, pour notre part, c'est les questions de financement. Les questions du système solidaire, de sécurité sociale, qui a fait sa démonstration de son efficacité pendant de nombreuses années et qui l'est encore. Mais il y a un cœur, le cœur du débat est celui du financement. Et vous voyez que de façon récurrente, le débat des cotisations sociales revient sur le devant de la scène. Et nous, on pense qu'il y a une solution au financement de l'assurance maladie. L'assurance maladie n'est pas malade de ses dépenses, elle est malade de ses recettes. Et tant qu'aucun gouvernement n'osera s'attaquer à ce sujet, on sera devant le constat qu'a dépeint Patrick, puisque les besoins de santé vont augmenter, mais ce n'est pas nous qui le disons, y compris le Haut Conseil de l'assurance maladie l'a dit, les besoins de santé vont augmenter, il y a technologie, il y a vieillissement, etc., il y a des pathologies nouvelles. Et donc, le problème numéro un d'après nous, c'est de s'attaquer à une réforme du financement de l'assurance maladie des cotisations sociales. Et ce n'est pas les cotisations sociales, nous pensons à la CGT, qui pèsent sur l'emploi. Il y a des réformes possibles qui peuvent pénaliser les entreprises qui licencient, qui ne créent pas d'emplois pour pas de politique sociale, et on peut trouver des systèmes de financement de l'assurance maladie qui favorisent les entreprises qui ont des mesures sociales, qui créent d'emplois et qui font de la formation, à condition qu'on accepte d'ouvrir ce chantier. Et aujourd'hui, le problème est, c'est qu'on a du mal à ouvrir des négociations sur ce sujet. D'ailleurs, c'est surtout qu'on a du mal à ouvrir des négociations. Il n'y a plus aucun dialogue social avec ce gouvernement, que ce soit d'ailleurs pas plus avec le patronat qu'avec le gouvernement, ou y compris dans la fonction publique hospitalière. Donc, nous, on pense que c'est vraiment le cœur du sujet. Alors, si on parle politique de santé, de notre point de vue, il faut parler de l'état de santé et de l'état social de la société. On a fait aussi le constat sur les études sur l'état de santé des populations. Les populations vont mal et les pathologies sont les plus développées, que ce soit la pathologie cardiaque ou autre. C'est là où le niveau social des populations est le moins élevé. Donc si on parle d'état de santé de la population, il faut soulever la question de l'emploi, de la précarité et des niveaux de vie des populations. On a une pauvreté qui s'étend, la précarité, ça fait de la maladie. Le chômage fait de la maladie, la pauvreté fait de la maladie. Donc il faut qu'on s'attaque, avant tout, on pense que c'est un problème social, un problème d'emploi, de chômage et de précarité. On est assez satisfait d'avoir des missions de CPE, pas tout seul, mais ça fait partie des mesures phares qui pouvaient instaurer, on n'a pas fini, mais qui pouvaient instaurer une précarité rampante. Pour ce qui est de l'hôpital, c'est pas très inquiet, c'est pas nouveau. L'hôpital public est maintenant à xème réforme, où tous étaient dans le même sens, c'est-à-dire de demander de faire des économies. Cette année, on demande 560 millions d'économies d'euros à l'hôpital public une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'on décide sciemment, dans une loi budgétaire qui a été discutée à l'Assemblée nationale, on décide sciemment qu'on donnera moins à l'hôpital que ce qu'il a besoin pour fonctionner toute l'année. Et on lui demande de réduire son activité comme si l'hôpital public pouvait décider de la diminution de l'offre de soins et des besoins de santé. C'est absolument délirant. Donc tout passe à la trappe. Et évidemment, tout ce qui est privatisation d'un certain nombre d'activités, externalisées, l'hôtellerie, la blanchisserie, voilà. Et maintenant, on est en train de s'attaquer au cœur de l'hôpital, c'est-à-dire ses professions, ses métiers, ses qualifications, ses salaires, et en instaurant une précarité importante. Ça, c'est pour l'hôpital public, mais il faut savoir que dans le secteur, les hôpitaux qu'on appelle privés participant au service public, comme vous êtes de la région parisienne, je vais prendre un exemple, c'est l'hôpital Foch à Suresnes, 2000 salariés, il y a un plan social en ce moment de 350 emplois qui a été négocié. Un hôpital à qui on demande, et on le sait, il va augmenter son activité de 6%, mais on lui demande, pour rester dans son enveloppe budgétaire, de diminuer ou de s'appeler pratiquement 350 emplois lors de faire la retraite, externalisation, tout y passe. Et cet hôpital devra continuer à assumer l'augmentation de l'activité de 6%. Donc, je suppose que vous allez à l'hôpital, comme tout le monde, on ne vous souhaite pas, mais ça arrive d'aller aux urgences, d'avoir une intervention, etc. Si on y ajoute la politique de concentration qui a été menée depuis des années, c'est-à-dire on a fait presque 100 000 lits, mais c'est 200 services d'urgence qui sont passés à la trappe, c'est pratiquement autant de maternité. Là c'est les plateaux techniques et les blocs opératoires qui sont sur la sellette. Donc l'idée, c'est on rassemble, on concentre pour faire des économies. Donc c'est la surcharge dans les urgences, donc c'est les délais d'attente, c'est l'usine, l'hôpital c'est l'usine aujourd'hui. Hein. Il faut réduire les durées de séjour. En maternité, on est tombé à 3 jours, bientôt on aura peine à coucher, il faut en sortir. Il faut faire de la place, il faut faire de l'activité. Et on a une réforme de financement qui a été décidée par ce plan de l'UNICEF, hôpital de l'UNICEF, de l'ATI, qui est continué par les autres. Qui consiste à dire vous pourrez dépenser si vous avez des recettes. Donc ça va être la course à l'activité, il faudra faire du chiffre. Aujourd'hui l'hôpital c'est ça, il faut faire du chiffre. Il faut faire des patients, il faut faire des opérations, il faut faire sortir les malades, il faut réduire les durées de séjour, c'est l'usine. On travaille à flux tendu, en permanence. Et pour les personnels, vous imaginez bien que c'est... assez dramatique pour les contenus professionnels. Quoi. Enfin, moi, je suis infirmière, j'ai un certain nombre de collègues qui sont là. Donc, juste pour finir, dire qu'à côté de tout ça, ça réagit. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas la une des médias et des journaux, encore que dans la province, c'est assez bien traité par les médias locaux. Mais on a beaucoup de luttes avec les professionnels, médecins, non-médecins, les populations, les élus, parce qu'évidemment, l'offre de soins, ça ne concerne pas seulement les professionnels, mais aussi les populations. On a des villes entières qui se sont mobilisées pour garder les services d'urgence. On a en Ardèche des luttes en ce moment pour garder les hôpitaux. Ça réagit. Les réformes ne passent pas comme une lettre à la poste. Nous, on a beaucoup d'actions dans les conseils d'administration des hôpitaux sur les budgets. Enfin bon, c'est aussi un appel pour dire, être un, s'occuper de la défense du service public hospitalier, et deux, être attentif sur le discours récurrent qui est de dire on n'a pas les moyens, soi-disant, de répondre à tous les besoins, donc il faut faire des économies. Alors que dans ce pays, on a les moyens largement de satisfaire les besoins sociaux, les besoins de santé, en s'attaquant à une réforme du financement de l'assurance maladie et de la protection sociale.
Voilà. Merci. Si vous voulez intervenir, parce que ça reste un débat, je vais passer la parole à Laure Simonneau. Juste pour faire suite à... Parce qu'en fait, c'est toujours pareil hein, en matière de santé, sur un débat comme ça, ce qui est le plus parlant, c'est les exemples. Je suis allé visiter et rencontrer des collègues dans le sud de l'Auvergne la semaine dernière, à Aurillac. Et donc, c'est Aurillac, c'est vraiment... c'est beau, mais c'est vraiment très isolé. C'est Aurillac. Alors... Et donc on leur a mis un hélicoptère pour leur dire, si vous avez des malades graves, vu qu'on vous a fermé presque tout, vous avez un hélicoptère. Le problème, c'est que les budgets pour l'hélicoptère ne sont jamais arrivés, et donc l'hélicoptère ne peut plus décoller à partir du mois de juin. Voilà. Ce qui est embêtant, puisque c'est au mois de juin où l'hélicoptère peut voler, parce qu'en hiver, c'est difficile. Ils n'ont pas la vision nocturne. Donc c'est... Voilà. Et ça, c'est vraiment au quotidien. Donc Anne-Laure Simonneau, qui est donc psychiatre, et c'est très important son intervention, parce que l'un des problèmes de santé publique majeur que nos chers gouvernants ne veulent absolument pas résoudre, c'est le problème des suicides. Vous savez que c'est même la première cause de mortalité chez les plus jeunes, avant les accidents de circulation, et que dans les hôpitaux où en fait maintenant on fait vraiment, comme disait Nadine, de l'abattage, c'est pas du tout de la volonté des professionnels. Mais lundi dernier, j'avais 38 malades à hospitaliser. Alors si on dit ça immédiatement, s'il y avait 5 grands professeurs dans la salle, ils disent « Mais ces gens n'ont rien, ils exagèrent, ils veulent tout de suite, etc. » Alors si c'est quelqu'un de leur famille qui vient, je peux vous dire que le téléphone, c'est insupportable. Et donc il y avait 38 accouchés, il n'y avait pas un lit sur Paris. C'est vous dire qu'ailleurs, c'est la même chose, mais dans un grand silence. J'ai pour l'habitude de dire que les morts ne peuvent pas faire un communiqué de presse. Et donc c'est un peu... notamment là, il faut que vous sachiez que le grand mensonge de mon ami Jean-François Mattei, ça a été son plan urgence, qui est l'un des grands mensonges qui existait. Là, on est au mois d'avril, les hôpitaux, pour boucler les budgets, vont fermer un record absolu de lits l'été prochain, parce qu'il n'y a plus de personnel. Il faut comprendre que aujourd'hui, nous serions à même de recruter les fameuses 45 000 soi-disant infirmières qui avaient été créées par le plan Jospin pour la RTT, etc., mais on ne les trouve pas. Et j'ai fait l'expérience dans mon hôpital, l'hôpital Saint-Antoine, de faire téléphoner une nana qui était infirmière qui cherchait du boulot, et alors que la direction passe son temps à nous dire « On recrute des infirmières, mais on n'en trouve pas », elle a téléphoné et ils ont dit « On n'a pas de travail pour vous ». C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas embaucher. Quand même savoir que quand il y a eu l'épidémie du chikungunya, le ministre a osé déclarer qu'on ne trouvait pas d'infirmières pour y aller. C'est très rare, hein, des gens qui refusent un voyage sur l'île de la Réunion. Voilà, il y a le chômage. Enfin, c'est insensé, le système qu'il y a. Anne-Laure, un mot sur... la psychiatrie. Voilà.
Je vais m'asseoir. Alors, je suis effectivement très contente de lire du discours des propos de Patrick comme de ceux de Nadine, parce que ça va me permettre de pouvoir enchaîner. La psychiatrie, je veux dire, est une spécialité médicale, mais qui est quand même une spécialité, je veux dire, qui se situe à un carrefour. Et l'histoire de la psychiatrie est une histoire aussi politique. Un carrefour qui se situe au niveau du sanitaire, du social et du politique. Nous n'avons, et je pense en psychiatrie, si on veut défendre un certain nombre de principes, je veux dire, de soins et de principes médicaux pour l'hôpital public et pour nos patients, nous avons des choix à faire, et nous avons des choix à faire qui sont des choix politiques. Et pour preuve, l'histoire de la psychiatrie contemporaine, je veux dire, est parlante, puisque le système, effectivement, de solidarité de la sécurité sociale apparaît après la Seconde Guerre mondiale, mais le dispositif de psychiatrie publique, qui est un dispositif, je veux dire, organisé par secteur en fonction du domicile, je veux dire, des gens, qui était un dispositif, je veux dire, tout à fait destiné à permettre l'accès aux soins, je veux dire, pour tous les patients, est un dispositif qui se met en place dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, parce qu'effectivement, la Seconde Guerre mondiale, outre, bien évidemment, je veux dire, l'horreur, je veux dire, du génocide des Juifs et des Tziganes, a effectivement mis en lumière le fait que les malades mentaux étaient, je veux dire, des patients parmi les plus fragiles et parmi les plus exclus de notre société. Je veux dire, les premiers qui ont été victimes de l'extermination en Allemagne et qui ont été gazés ont été des malades mentaux. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu en France aussi notre scandale. Hein, notre scandale sous Vichy, notre scandale qui a été, et je citerai, je veux dire, un ouvrage qui s'appelle L'extermination douce de Max Lafon, qui est un de mes collègues psychiatres de Lyon, qui effectivement a eu énormément de mal à faire publier son ouvrage il y a cela une vingtaine d'années, qui effectivement avait, je veux dire, mis en lumière le fait qu'on n'avait pas eu une politique d'extermination systématique pour les malades mentaux, je veux dire, sous Vichy, mais qu'on les avait tout simplement dans un certain nombre d'hôpitaux très importants laissés mourir de faim, tout simplement. Dans l'indifférence, je dirais, totale. Et c'est là où, effectivement, la psychiatrie, je veux dire, est vraiment, je veux dire, quelque chose dont la dimension humaine et politique devient essentielle. Parce que dans des temps, je veux dire, et dans des périodes, et à des moments, je veux dire, une société est en crise, fait des choix, est en lutte, n'est pas en lutte, je veux dire, Les premiers, quand même, parmi les plus fragiles de nos patients, sont les patients, je veux dire, dits malades mentaux, et la façon dont une société peut faire des choix par rapport à ses fous et à ses propres fous. Et donc, la psychiatrie, je veux dire, publique, s'est organisée, je veux dire, face, je veux dire, à ce scandale en France, à cette ignominie en Allemagne, mais à ce scandale en France, qui avait été, je veux dire, de laisser mourir dans l'indifférence des milliers de malades, peu importe le chiffre. Et donc, on a effectivement pensé un système de soins, je veux dire, dont l'accès, je veux dire, était ouvert à tous, des soins de proximité, avec des équipes, je veux dire, médecins, psychologues, infirmières, assistantes sociales, etc., et qui était un dispositif, je veux dire, qui était public, financé, promu par, je veux dire, les pouvoirs publics et une volonté politique d'assistance. Ce système, je veux dire, s'est mis en place progressivement, Et effectivement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, à l'instar d'autres pays, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, comme un certain nombre de pays européens, que s'est-il passé pour que nous soyons aujourd'hui aussi inquiets et aussi alarmistes pour simplement la vie, je veux dire, et la protection de nos patients? Ben, il s'est passé une chose, c'est que peu à peu, il y a eu un désinvestissement de la puissance publique, de l'engagement public, d'un engagement peut-être collectif, parce qu'il y a aussi l'engagement d'une société, d'une collectivité et des choix qu'on peut faire vis-à-vis de ceux qu'on protège, qu'on soigne, qu'on aide et qu'on assiste, ou de ceux qu'on privilégie. Ça dépend. Ça dépend des temps de crise, ça dépend aussi des choix de société, ça dépend aussi, je veux dire, de l'intérêt, je veux dire, que peuvent susciter un certain nombre de populations de patients. Il est vrai que lorsque les malades mentaux ou certains malades exceptionnellement commettent des crimes odieux ou des méfaits, on a une surenchère médiatique, une outrance depuis plusieurs années d'ailleurs, bien avant le drame de Pau, qui fait qu'effectivement, là, on se préoccupe de la sécurité des hôpitaux et on se préoccupe, je veux dire, dans un contexte tout à fait sécuritaire, de faire en sorte que les malades, je veux dire, coûtent pas cher, le moins cher possible, mais en plus, je veux dire, soit sous contrôle et permanent. Donc, ce dispositif, je veux dire, de soins publics, avait fait la preuve de son efficacité. Il y a 20 ans, en 20 ans, il y a 40 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés en psychiatrie. Rien qu'en psychiatrie. Une démographie médicale infirmière en berne. 750 postes de psychiatres publics vacants sur tout le territoire français. Et puis, effectivement, ben, il faut que ça rapporte. L'hôpital devient et doit devenir une entreprise. À la logique médicale, on substitue une logique gestionnaire avant tout. Et les malades, comme les miens, sont soit des bons malades guéris, je veux dire, entre guillemets, en quelques mois, et encore, soit effectivement des malades à long terme et à plus long terme, et nous soignons tout le monde, y compris les pathologies les plus graves, cela effectivement coûte cher, plus cher, sont sans intérêt, ne travaillent pas, ne sont pas productifs, ne sont pas rentables. Bon, n'intéresse pas forcément grand monde. Et du coup, je veux dire, cette espèce de gestion de la pénurie qui s'est fait insidieusement et qui a été acceptée par un certain nombre d'entre nous, et je mets en cause aussi les psychiatres, et un certain nombre de psychiatres, a permis qu'on s'habitue à une rationalisation des dépenses, à une rationalisation des soins, et à ce qu'effectivement, je veux dire, on puisse dire, ben non, maintenant, il faut que les gens soient soignés en tant que temps. En psychiatrie, on sait que les choses sont beaucoup plus compliquées, on est sur, je veux dire, un certain nombre de pathologies qui durent longtemps, il y a des choses qui sont peut-être, bon, moins faciles à résoudre en quelques semaines, les traitements sont longs. Et même quand il n'y a pas de traitement médicamenteux, le traitement, je veux dire, en entretien, je veux dire, peut demander plusieurs semaines et peut demander plusieurs, je veux dire, consultations. Les délais d'attente actuellement, je veux dire, sont extrêmement importants en consultation publique. Les files actives ont augmenté puisqu'on a diminué les moyens, mais la demande n'a pas diminué. Et finalement, on s'aperçoit que non seulement, je veux dire, La psychiatrie, je veux dire, a dérivé, je veux dire, vers, comme ça, une médecine qui se voudrait une médecine à court terme, et on abandonne de façon cynique, je veux dire, un certain nombre de patients qui ont besoin de soins à plus long terme. Et en même temps, c'est une psychiatrie qui finit par se réclamer, je veux dire, à la fois d'un alignement sur une médecine somatique, à la fois, effectivement, comme substitut d'un traitement du malaise social. Elle est sollicitée en permanence par rapport à ça. Une dernière chose, nous sommes de plus en plus envahis par une politique sécuritaire. Patrick le disait, je veux dire, au CPOA, au centre à Sainte-Anne, un patient est arrêté. 15 jours avant, à l'appel, je veux dire, du directeur, dans un hôpital du Sud, du Var, dans un hôpital psychiatrique, des policiers ont fait irruption dans l'hôpital, ont isolé des patients, ont fait des fouilles à corps pour effectivement trouver, soi-disant, je veux dire, du cannabis, etc. Ils ont trouvé 4 mégots. Hein, voilà. Je veux dire que la police peut faire irruption maintenant à tout moment, je veux dire, dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on peut garantir à nos patients? Comment peut-on les protéger? Comment peut-on leur garantir aujourd'hui, avec la pénurie de moyens, les flux tendus, je veux dire, les problèmes de sécurité? Parce que quand vous avez, je veux dire, un service, je veux dire, hospitalier, de 30 lits, avec la nuit, un infirmier et une aide-soignante, qu'est-ce que vous faites? Effectivement, le problème de sécurité se pose. Mais le problème, je veux dire, n'est pas résolu. Et donc, effectivement, on a de plus en plus cette pression sécuritaire pour, à moindre coût, transformer les hôpitaux en entreprise, en table, pour des patients qui auraient finalement peu de soucis et qui seraient, je veux dire, malades peu de temps. Les autres, bien évidemment, seront exclus et mal soignés, sinon non soignés. Merci.
Je vais passer la parole à Patrice Muller.
Je vais essayer de parler. Je vais rester debout parce que je me suis dit, avec ces discours, on va utiliser, je voudrais juste introduire le débat. Moi, je suis médecin généraliste, je suis parti au syndicat de médecine générale, pas syndicat de médecine généraliste. Nous, on est dans une double posture à la fois de défense du secteur public, qui est un pan des choses. De ce point de vue-là, alors nous, on est très sensible au problème d'accès aux soins du point de vue tarifaire. Nous, on est, encore, j'exerce en banlieue sud, il y a des scandales quotidiens. Il y a des opérations chirurgicales, le secteur privé a une quasi hégémonie dans l'offre de soins, puisque l'hôpital public ne répond plus. Une intervention de cataracte, à moins de vouloir faire 60 km dans le coin, on est obligé de passer par le secteur privé, et c'est des 200, 300, 400 euros, quelle que soit la situation sociale du patient, qui sont demandés aux malades. On peut ou on ne peut pas, sinon on reste avec la cataracte, par exemple. Alors, pour ce faire, il nous semble que, on a donné l'exemple particulier, et c'est un peu ça notre faiblesse, c'est-à-dire que nous réagissons en fonction de circonstances particulières, et pour les gens, c'est trop tard, c'est quand on est malade, on ne peut plus se défendre. Donc il nous semble que vraiment, la première des choses pour résister, c'est d'essayer de faire un tissu de défense collectif. Donc, modestement, on a essayé de nous lancer, et ça a pris tournure, un site qui s'appelle l'ONRAM. L'ONRAM, on s'est un peu amusé sur ce logo. Observatoire national de la réforme de l'assurance maladie. Donc, si vous faites www.onram.org, des gens peuvent s'exprimer en disant « Moi, j'ai été victime dans mon coin de cette situation scandaleuse en matière d'accès aux soins. On a refusé mon AME, j'ai subi tel dépassement, maintenant tel dépassement d'honoraires, j'ai eu 3 mois pour avoir un délai dans le secteur public, alors qu'on me demandait si j'avais accepté le secteur privé. » C'était 15 jours, donc pour dénoncer ça, de façon à ce que les témoignages d'individuels deviennent collectifs et qu'on puisse témoigner de la dégradation dans l'accès aux soins. Je ferme la parenthèse pour RAB, si vous pouvez, je peux donner des détails complémentaires. Mais par contre, l'autre volet auquel nous sommes très sensibles, il y a quand même 2007, il y a des mouvements sociaux, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on propose? On peut dénoncer la pénurie, il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. nous semble que nous, la crise est quand même complexe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un euro qui part dans le système de soins, il est mal utilisé. Autrement dit, on pourrait faire beaucoup mieux avec cet euro, à condition de changer des choses qui sont plus dans le ponctuel, qui sont vraiment des choses structurelles. C'est-à-dire qu'il faut, selon nous, changer de paradigme. Il faut passer du soin à la santé. Il ne faut plus tout mettre dans le système curatif, il faut aller vers le préventif. Et de ce point de vue-là, il y a des gisements énormes en termes de qualité à voir. Il y a des domaines, des tendances lourdes. Patrick l'a dit, le vieillissement de la population. On ne peut pas imaginer, je crois, dans les 10 ans à venir, le nombre de personnes de plus de 80 ans va doubler ou tripler. Et si on propose nos modes de soins actuels, on sait qu'on va droit dans le mur, c'est pas possible. Hein. À 80 ans, on ne soigne pas une personne à 80 ans de la même manière qu'on soigne une personne de 20 ans. Il y a des catastrophes lentes qui s'annoncent. Hein. L'obésité, on en parle, on en fait tarte à la crème, mais c'est déjà inscrit dans la structure. Si on veut s'attaquer préventivement à l'obésité, c'est en amont de la médecine qu'on peut faire, c'est dans les cantines scolaires, c'est le travail des écoles, avec les associations parentales, etc. Donc c'est d'autres modes d'organisation de notre système qu'il faut imaginer et qui n'existe pas à l'heure actuelle. Il y a un autre acteur, c'est l'assurance maladie. On ne peut plus imaginer que l'assurance maladie fonctionne comme elle fonctionne. C'est devenu un monstre technocratique dans lequel les principaux intéressés, les assurés sociaux, n'ont absolument aucun mot à dire. Les professionnels de santé, encore moins. On nous impose des usines à gaz. Je prends deux exemples auxquels je suis très sensible. Le dossier médical personnel, qui est le seul investissement qu'a fait le gouvernement pour faire avancer les choses dans le bon sens. C'est une usine à gaz effroyable, qui est d'abord très liberticide, qui est de l'argent qui ne va servir à rien du tout. Hein. On n'a pas besoin de ce truc-là, qui est une usine à gaz. Et pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis, ni aux usagers, ni encore moins aux professionnels de soins. Ça vient du haut, c'est quelques technocrates dans un ministère qui balancent ce truc-là, avec des logiques à eux, etc., etc. Donc on voit bien aussi que du côté de l'assurance maladie, on ne peut pas faire l'économie du fonctionnement de l'assurance maladie. Il y a des solutions dont je ne vais pas en discuter. Et puis, il y a la gestion, il y a nos métiers du soin. Hein. En médecine générale, l'exercice libéral, il est mort de fait. Les étudiants en médecine, quand ils sortent de fac, dès qu'il y a un poste salarié, ils s'y ruent, ce n'est plus du tout attractif. Il faut faire le constat que pour la médecine générale, le mode libéral, il est obsolète. Il ne répond plus ni aux aspirations des étudiants, ni à nos aspirations si on met dans nos métiers cette dimension de la prévention, puisqu'on n'est pas payé pour ça. Il faut donc être imaginatif. Donc il y a, je pense que chacun de nos métiers doit évoluer et à l'aune de 2007, il faudrait imaginer et réfléchir ensemble sur ces évolutions structurelles. Parce que sinon, bon, bien sûr, il y a la pénurie, mais c'est pas. Je veux dire que là, c'est un peu court pour quelqu'un qui imagine un autre système de fonctionnement, c'est pas suffisant. Il faut se défendre pour que le secteur public reste. On n'y touche pas, mais il y a d'autres réformes qui sont aussi importantes, pour lesquels et les usagers, les professionnels du soin doivent réfléchir ensemble. Et pour l'instant, je suis un peu inquiet parce que si on regarde du côté des alternatives, il n'y a pas grand-chose pour imaginer les indispensables modifications structurelles pour aller du ce que j'appelle moi du soin à la santé. Voilà, j'en reste là.
Merci. Intervenir, compléter. Donc, on va clôturer là, à peu près dans les délais, semble-t-il. C'est bon. Voilà. Pour une note optimiste, lisez Charlie Hebdo toutes les semaines. Je vais être dedans. Voilà. Et donc, on refera le 8 juin un concert de soutien où il y aura. Probablement Mano Solo, enfin non, pas probablement, Mano Solo, les Têtes-Raides, un certain nombre d'autres artistes qui seront là. Ça aura lieu sans doute au Bataclan le 8 juin, vous serez les bienvenus. Le combat continue, c'est pas simple, c'est pas gagné. De toute façon, il n'y a aucun combat qui est gagné à l'avance. Voilà, il est au bar évidemment, mais remercier Mano Solo d'organiser ça, parce que même si on n'est pas 3000 ce soir, à mon avis, tout ce qui entraîne un débat ou des rencontres avec des gens, c'est vraiment essentiel. C'est, même si ça reste encore... Je crois que l'alternative est là. Il y a une page qui a été tournée, qui est de plus en plus d'ailleurs criante, on l'a vu avec les émeutes qu'il y a eu à l'automne, on a fait croire que c'était quelques casseurs, point barre. On l'a vu avec les manifestations contre le CPE, 3 millions le 28 mars, et puis après ils ont dit, bon, maintenant ça va se calmer, et presque 4 millions la semaine d'après. Donc c'est vraiment, il y a une mobilisation citoyenne. Cette mobilisation en matière de santé, la santé, elle n'appartient pas aux médecins, elle n'appartient pas au personnel ou aux professionnels qu'on est. C'est un bien complètement commun. Et faut s'emparer de ce débat, parce que de toute façon, les malades, dans quelques années, ça sera nous, donc ou ça sera nos proches. Et bien souvent, oui, il y a des problèmes dans les hôpitaux, mais bon, ça ne me concerne pas. Et c'est le jour où il y a un pépin que là, les gens découvrent. Et on ne fait pas ça. Enfin, moi, je sais qu'on voit un peu dans les médias, etc. J'essaie de porter ça. C'est-à-dire, en fait, les médias, c'est un outil. C'est pas une fin en soi. Alors, évidemment, il y en a qui disent, bah, oui, c'est bien, c'est une star. Non, c'est pas du tout ça. Des gens comme moi, on porte des idées à travers un instrument qui sont les médias. Mais il faut relayer ça, parce que en face de nous, le pouvoir de l'argent, il est considérable. Et la santé est devenue un véritable business. Et voilà. Donc je crois que ces mobilisations-là, même si on est ce soir dans une cave, c'est comme ça que les grands combats ont commencé. Voilà. Merci beaucoup.